La question du jour. Donald Trump assure qu'il a toutes ses chances aux prochaines élections américaines. Le scrutin final approche. Les sondages donnent son adversaire démocrate largement favori, Joe Biden, compte en effet sur une participation qui s'annonce importante. Sauf que cette fois-ci, qui oserait jurer qu'il n'y aura pas de surprise? Bonjour Anne Desine.
Bonjour.
Vous êtes juriste, spécialiste des États-Unis et autrice des États-Unis et la démocratie aux éditions L'Harmattan. Alors, il y a différents scénarios qui pourraient donner une victoire à Donald Trump. Tout d'abord, il y a bien évidemment le fait que Donald Trump, dans les sondages, s'il est donné perdant, il y a une marge d'erreur et il y a un scrutin, un mode de scrutin particulier aux États-Unis, Anne Desine.
Oui, alors bien sûr, nous avons tous le choc de 2016 et donc on se dit oui, il va peut-être gagner puisqu'il l'a fait en 2016. Et pourquoi a-t-il pu le faire? Parce qu'il y a un collège électoral. Et donc il ne suffit pas d'avoir la majorité du suffrage populaire, il faut faire basculer grâce au système uninominal à un tour les petits États ou les États qui comptent et en particulier la Pennsylvanie avec 20 grands électeurs.
Alors voilà, faites-nous un peu le détail de ces États qui vont être particulièrement cruciaux pour le scrutin à venir, Anne Desine.
Les trois États qui ont donné la présidence à Trump l'année dernière sont la Pennsylvanie, le Wisconsin et le Michigan. 20 plus le Wisconsin 16 plus le Michigan 10. Donc la grande question, si on se met du côté de Biden, c'est peut-il emporter la présidentielle s'il perd la Pennsylvanie? Parce que il est bien en avance, au-delà de la marge d'erreur, a priori, dans le Wisconsin et dans le Michigan. Parce que ce qui a posé problème en 2016, c'est que d'abord les sondeurs avaient trop considéré que les électeurs avaient fait des études supérieures. Et donc dans ce cas-là, ils les ont fait voter dans les prévisions de vote pour Clinton. Et en fait, il y avait beaucoup de ces blancs, de ces États qui n'avaient pas fait d'études supérieures et qui se sont prononcés pour Trump. Donc ceci a été rectifié dans la procédure de sondage cette fois-ci.
Oui, c'est ce qu'on appelle les redressements.
Voilà.
C'est-à-dire la cuisine sondagière, une fois que le sondage a été fait. Non, parce que ça peut surprendre que les sondeurs bricolent comme ça les chiffres.
Oui et non, c'est une bonne chose. Ils essaient de coller à la réalité du terrain, si j'ose dire. Et l'autre chose qui est changée, c'est que Biden est régulièrement au-dessus de 50, alors que Hillary Clinton avait à peu près le même écart avec Trump, mais elle était en dessous de 50, et Trump était encore plus bas. Donc il y a des éléments qui font penser que Biden devait emporter aussi la Pennsylvanie, mais ça c'est pas sûr. Et donc la question, c'est peut-il gagner sans la Pennsylvanie? Alors dans ce cas-là, il y a un plan B. Et si certains se demandent ce qu'il va faire en Arizona, ben l'Arizona, qui était traditionnellement très républicain, est en train, et c'est en partie dû à beaucoup d'Hispaniques qui sont installés et qui sont très très fâchés par la politique anti-immigration de Trump et la façon dont il traite les familles, les enfants, etc. Cet État d'Arizona est en train de devenir bleu, de devenir un peu démocrate. Et dans ce cas-là, ça lui ferait un plan B. Il obtiendrait les fatidiques 270 grands électeurs grâce à l'Arizona et puis à une petite voix un peu compliquée du Nebraska. Et donc, il arriverait à 270. Cela étant, si on veut être un peu plus optimiste, les sondages laisseraient penser que Biden aurait beaucoup plus. Parce que si on fait le raisonnement à l'envers, je pense que Trump ne peut pas gagner s'il perd la Floride.
Aujourd'hui,
les sondages sont... Biden est un peu en avance, mais il est à 49 contre Trump 45, c'est-à-dire il est en dessous de ce petit seuil de 50 dont je parlais à l'instant.
Voilà, donc il y a encore des choses qui sont très ouvertes en la matière. Anne Desine, on voit aussi qu'il y a traditionnellement ce qu'on appelle un gender gap, autrement dit une différence entre le vote des hommes et le vote des femmes, et particulièrement pour les républicains, où généralement il y a plus un vote masculin qu'un vote féminin. Comment ça se passe aujourd'hui dans les prévisions pour le vote Trump?
Alors pour le vote Trump, ce n'est pas une bonne nouvelle parce que les femmes l'ont abandonné massivement et elles se prononcent à 60, 63, vous savez, selon les différents sondages, pour Biden. Là aussi, elles sont très fâchées de son comportement, de son attitude lors du premier débat, etc. Et l'autre tranche d'âge qui avait fait élire Trump, ce sont les seniors. Et les seniors sont aussi furieux du fait que le président considère qu'ils sont une variable d'ajustement, que la priorité, c'est de réouvrir l'économie, et que s'il meurt quelques milliers d'entre eux, ben, comme il a dit à un moment, c'est la vie.
Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le cœur de l'électorat de Donald Trump, aujourd'hui, Anne Desine, ce sont les hommes blancs?
Ah, complètement. Non seulement les hommes blancs, mais les hommes blancs qui n'ont pas fait d'études supérieures.
Donc c'est
parce que les femmes blanches qui n'ont pas fait d'études supérieures, qui avaient voté pour Trump, sont maintenant du côté de Biden. Il a la grande majorité des femmes qui ont fait des études supérieures, mais il est même bien placé avec ces femmes qui ne sont pas allées à l'université.
Et les minorités, alors vous avez parlé des latino-américains, vous nous avez dit, Anne Desine, ceux-ci ont été heurtés par la politique anti-migratoire de Donald Trump, ils ne voteront pas majoritairement pour Trump. L'autre question, c'est la mobilisation de l'électorat noir contre Donald Trump.
Oui, les hispaniques, je veux néanmoins revenir, parce que dans l'Arizona, ils vont voter pour Biden, mais Biden n'est pas bien placé avec les hispaniques. C'est la seule tranche de population pour laquelle il est moins bien placé qu'Hillary Clinton. Et curieusement, malgré donc ses politiques anti-immigration, Trump est relativement bien placé chez certains partie des hispaniques, parce que les hispaniques, ce n'est pas un bloc monolithe.
Bien sûr.
Si on regarde la Floride, il y a une position totalement opposée entre les hispaniques qui viennent de Puerto Rico, qui penchent du côté de Biden, et ceux qui viennent de Cuba, qui sont instrumentalisés par Trump, qui leur explique que ce que va mettre en place Biden, c'est le communisme. Or, quand on vient de Cuba, que l'on a quitté Cuba, on veut surtout échapper au communisme.
Et oui, c'est ce qui explique en fait cet apparent paradoxe. Pour les autres votes minoritaires, le vote noir notamment, là la question c'est la mobilisation. Que sait-on à ce stade, Anne Desine, du vote de l'électorat noir?
Alors, l'électorat noir est bien mobilisé, plus qu'en 2016. Obama a mis tout son poids dans la balance, et Michelle Obama également. Simplement, il y a des campagnes de désinformation à destination des Noirs, en leur disant « ça ne sert à rien de voter, puis vous savez, ces démocrates, ils vous prennent pour acquis ». Et en fait, les seuls qui résistent bien à ces campagnes de désinformation sont les femmes. Les femmes noires se sont déplacées massivement déjà en vote anticipé, en vote par correspondance et continuent de le faire. Elles représentent une part, je n'ai pas le chiffre exact, mais une part non négligeable de ces près de 70 millions d'électeurs qui se sont déplacés pour voter avant le jour de l'élection, pour être sûr qu'ils vont pouvoir voter et qu'avec un petit peu de chance, leur bulletin sera dépouillé et pas volé ou brûlé par les partisans de Trump.
Et puis il a été évoqué également, toujours sur cette question-là, le fait qu'un certain nombre de personnes soient découragées de voter. Alors par exemple, la question de la pièce d'identité nécessaire pour aller voter.
Oui, alors tout ceci fait partie d'un processus dont je parle dans mon livre sur la démocratie, qu'on appelle en anglais « voter suppression ». C'est une stratégie des Républicains depuis une vingtaine d'années. Ils ont compris que la démographie était contre eux, que la guerre culturelle allait contre eux, et donc qu'il s'agissait d'empêcher de voter le maximum de personnes qui auraient tendance à voter démocrate. Alors, on va exiger une pièce d'identité, mais bien particulière, qui fait peur aux Noirs, parce que les Noirs ont toujours cette crainte de l'autorité, et qui, de toute façon, est difficile à obtenir, car il faut aller dans un bureau qui n'est ouvert que le mardi de 13h à 14h, bien loin de tout transport en commun. On va purger des listes d'électeurs simplement parce qu'ils n'ont pas renvoyé un petit papier disant qu'ils habitaient bien à la même adresse. On va supprimer des bureaux de vote et c'est ce qui explique, par exemple, cette année, des queues de 10 heures en Géorgie.
10 heures,
au lieu d'avoir un... Oui, 10 heures. Il faut quand même être très, très motivé. Et donc, les Noirs dont on parlait à l'instant ont attendu en ligne pendant une pandémie 10 heures parce que le gouverneur républicain a supprimé un nombre important de bureaux de vote et surtout, bien sûr, dans les comtés qui ont tendance à voter démocrate.
Donc, en conclusion, Anne Desine, on voit qu'il y a un chemin pour Donald Trump, s'il y a donc un espace pour lui pour remporter cette élection, mais c'est un chemin étroit.
Oui, cela étant, il y a très peu de présidents qui n'ont pas été réélus. Récemment, simplement Carter et George Herbert Bush. Donc voilà. Généralement, il y a une corrélation avec la bourse. Bon, hier, elle a chuté, mais elle n'était pas si mauvaise que cela. Et puis, quand on regarde les inscriptions sur les listes électorales dans deux États pivots, la Pennsylvanie et la Caroline du Nord, on se rend compte qu'il y aurait encore un réservoir de ces personnes qui trouvent que Trump est un génie. Bien sûr, j'ai des problèmes avec cela, mais ça veut dire qu'on ne peut absolument pas rayer Trump de la carte.
Merci Anne Desine. Merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Les États-Unis et la démocratie » aux éditions L'Harmattan.